Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous suivre dans cette émission Radio Foot International sur la radio mondiale. Et nous commencerons aujourd'hui en Afrique avec les éléphants ivoiriens en tête de leur groupe grâce à leur victoire hier contre les Lions Indomptables. Une rencontre sans Eric Choupo-Moting, le serial buteur du Bayern Munich. Bizarre ou pas? Le Ghana, lui, battu, les Black Stars sont-elles devenues des ex-mondialistes alors qu'on avait un peu pris l'habitude de les retrouver dans la phase finale de la compétition mondiale. Les pharaons sans sélectionneur, une nouvelle fois l'Égyptien Al-Badri remercié, bien qu'il soit invaincu, pour le style ou plutôt pour son absence de style de jeu. Il a donc été sanctionné par la fédération. La Ligue 1 sans ses internationaux sud-américains, et ils sont nombreux dans les grands clubs de France et d'ailleurs, les dirigeants s'agacent, mais la FIFA persiste et signe. Le rebond de Franck Ribéry reste en Serie A chez le promu Salernitana, accueilli dans son club du sud de l'Italie près de Naples comme un nouveau Maradona. Et vous l'entendrez, Franck Ribéry. C'était son copain de jeu, en tout cas. Bonjour Marc Libra.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Il faudra nous emmener, lui rendre visite du côté de Salerne.
Ça serait bien,
avec
ouais.
Salerno, on ira à Salerne, ça serait quand même drôle.
Pourquoi pas? Bah oui, volontiers.
Hein, n'est-ce pas? On est tous partants alors. Bonjour Franck Simon.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Merci d'être là, vous allez nous éclairer pour tout ce qui est de l'Afrique. Oui, oui, allez-y avec Hervé Penaud. Bonjour Hervé.
Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir d'être avec vous. Et puis ça fait plaisir de voir du football africain à l'honneur.
Ça s'entend en tout cas.
Oui, et évidemment sur RFI, on lui fait une large part, surtout dans Radio Foot. Une pensée pour commencer cette émission pour notre confrère malien Boubacar Diakité, dit Bouba entre nous. Il a perdu sa maman hier à Bamako. Radio Foot, préparé avec l'aide de David Finzel, Laurent Salerno, El Maestro est à la réalisation. À Radio Foot, c'est parti.
Et c'est dedans le contre-pied, Sébastien Allaire qui ouvre le score pour les éléphants à domicile. 1-0 pour la Côte d'Ivoire face au Cameroun. Ce match est lancé, ce choc des titans est bien parti. Belle ouverture là pour Sébastien Allaire qui va se présenter. Sébastien Allaire l'a frappé, le but, le doublé de Sébastien Allaire. Patrice Baumel qui exulte, Serge Aurier aussi, et le stade des Limpé en folie.
Des éléphants qui barrissent de joie, comme Franck Simon d'ailleurs, n'est-ce pas?
De joie. Et pourquoi?
Parce que je crois que vous avez le cœur un peu par là, bah d'ailleurs.
Oh,
Franck Penaud,
je suis
aussi,
pas seul, hein, voilà. Attention.
Exactement. En tout cas, des éléphants qui battent des lions, hein, même indomptables dans la savane, c'est assez rare. Mais hier, les joueurs de Patrice Baumel se sont imposés dans un choc qui a été intense. Mais a-t-il tenu ses promesses, Franck Simon?
Oui, allez, sur le plan du jeu, il y a une équipe ivoirienne qui a quand même qui a essayé de développer quelque chose. On en parlait avant d'entrer dans le studio avec notre ami Hervé, mais côté camerounais, il y a de la déception parce qu'on avait regardé le match contre le Malawi, alors qui est pas peut-être du même acabit en termes de valeur collective et même individuelle. C'est dit bon, le Cameroun, il y a peut-être quelque chose, ils vont venir et ils viennent avec des intentions, ils vont vouloir faire les points à Ebimpe. Et on a été de ce point de vue-là, on a été déçus tant sur le plan défensif que sur l'organisation, que sur je dirais même sur son expression, la façon d'aller chercher le ballon, d'essayer de le remonter, c'était un petit peu le fouillis, c'était le bazar. Et les Ivoiriens ont eu le mérite d'essayer, en tout cas essentiellement en première période. Après, en seconde, ça a été un petit peu plus compliqué. Et puis, Hervé, tu me contrediras pas, je pense, il y a eu quand même un petit coup de fouet. Il y a eu des entrées en deuxième partie de seconde période, côté ivoirien, justement, pour redonner ce petit coup de fouet, essayer d'aller marquer un troisième but. Ils ont été tout proches de le faire. Ça reste un sommet quand même continental, évidemment. Oui. Peut-être pas du niveau de ceux qu'on a pu connaître, notamment ceux que toi, tu as assisté. Moi, malheureusement, je n'y étais pas, les sommets du début des années 2000. Mais ça, je trouve que comment il s'est passé des choses, sur le plan du jeu, un peu moins.
On va y venir au détail de cette rencontre. Hervé, sur l'ensemble, le choc attendu.
Un match un petit peu
déçu. Au moins, il s'est joué plus que 7 minutes.
Oui, hein, oui, déjà, c'est une chose très importante. Un peu décevant sur le plan du jeu, évidemment, mais on aura l'occasion d'en parler.
L'ambiance.
Parce qu'il y a quand même des raisons.
Pas de l'ambiance, il y avait
une
quand
belle
même.
Ambiance, ouais. 10 000 personnes. Et puis, on sentait que c'était quand même le choc de cette journée. Hein. Ça, y a pas de doute. Hein, mm. Parce que l'attente autour du match était importante. L'attente en Côte d'Ivoire, au Cameroun, évidemment, mais même en Afrique. Hein. J'ai senti que nous,
ça
on est sur des groupes de WhatsApp, de journalistes et notamment beaucoup de journalistes africains qui s'intéressent au football africain. Et évidemment, on sentait qu'il y avait quelque chose autour de ce match-là.
Tout le monde
était
intéressé.
Les Sénégalais, Mauritaniens, ouais.
Même les anglophones.
Les Togolais, hein. Même les anglophones. Tout le monde s'intéressait à ce match. Donc, c'était très important. Alors après, il y a eu demi-temps un peu distinct. J'allais dire une première mi-temps, effectivement, où les Ivoiriens ont mis un petit peu en place un jeu qui a mis en difficulté une défense camerounaise très lourde. Puis une deuxième mi-temps où je pense que les changements à la mi-temps ont apporté un petit peu au Cameroun, hein, avec l'entrée de Baoken et Toko Ekambi, ça a donné un peu plus de poids devant et ça a permis aux Camerounais sur un jeu beaucoup plus direct. Hein,
plus d'envie aussi peut-être.
Et puis d'arriver à revenir à ce 2-1 avec la sensation qu'il y a, sait-on jamais, même si Christian Kwame a préféré un raté incroyable, mais la sensation qu'on sait jamais, sur un malentendu entre guillemets, il pouvait y avoir égalisation.
On était plus proche de ça que du 3-1 d'ailleurs.
Exactement. Donc c'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu la joie des Ivoiriens à la fin, c'est qu'on sentait un soulagement, à un moment on se dit ça y est, on y est arrivé, ils sortaient d'un match nul sur un premier match, alors que les Camerounais avaient gagné, ça voulait dire quand même quelque chose. Et puis on se dit, c'est peut-être une voie qui peut s'ouvrir pour la Coupe du Monde. On en est loin, hein, c'est que le début des éliminatoires.
Oui, voilà, il y a 6 journées, et là, s'ils sont en tête, les Ivoiriens, effectivement, c'est seulement au bout de 2 journées. En tout cas, c'est pas toujours une bonne excuse, mais quand même, il y a eu un problème technique, voire matériel, c'est venu de la pelouse de ce stade flambant neuf.
C'est pas le mot, hein, pelouse. Hein.
C'est pas le mot, oui. Alors, ça a faussé le jeu de chacun. En tout cas, c'est ce qu'estime l'Ivoirien de l'Ajax d'Amsterdam, Sébastien Allaire, au micro de notre correspondant Mohamed Lamine.
La pelouse n'est pas forcément de très bonne qualité. Malheureusement, pour les joueurs, ça s'en fait sentir, que ce soit dans l'intensité du match ou dans la circulation de balles. Ce n'est pas toujours simple. Le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire, sont des équipes qui savent jouer au ballon. Ça nous dessert, en tout cas, dans ce système-là. D'où l'importance de marquer le premier but qui amène beaucoup de confiance et qui fait en sorte qu'on puisse plus protéger notre but. Aujourd'hui, ça finit à 2-1. Il y a beaucoup de scores qui sont amenés à être seulement d'un but d'écart. Donc, on sait que le premier but est le plus important. Et bien évidemment, le fait de marquer ce penalty met en confiance toute l'équipe. Moi, le premier, ça amène à créer des occasions et être beaucoup plus confiant pour amener le second but.
Il prend des pincettes, Sébastien.
Oui, on va dire ça comme ça. Sadio Mané, on avait pris un peu moins pour critiquer l'état de la pelouse au Sénégal.
Où
Et il a gagné, absolument.
Parce que Thiès, la dernière fois, il y avait une belle pelouse.
Exactement. Ouais, ouais. Et puis on l'avait défendu ici, hein, parce qu'on lui contre le ministre,
en 3 mois,
et contre
ils ont
le président de la Fédé,
ils ont bossé.
Donc en Côte d'Ivoire, on pouvait aussi bosser. Moi, je trouve franchement totalement scandaleux. C'est pour ça que je n'en veux pas non plus complètement aux acteurs, parce que jouer sur un terrain comme ça, enfin un terrain entre guillemets, hein, je ne sais même pas si des vaches aimeraient pisser dans ce genre d'endroit. C'est-à-dire
Non, ils avaient coupé l'herbe.
C'est tellement scandaleux de pouvoir jouer un match de cette importance avec des équipes de ce calibre. Alors, il y a les blessures qui auraient pu exister, bien parce sûr. Qu'on a senti des joueurs parfois sur des appuis qui avaient des difficultés. Et puis, vous dénaturez le jeu du football. Les footballeurs, ils aiment jouer sur quoi? Sur une pelouse, un minimum normal.
On va demander à Marc. On va bien l'entendre là-dessus sur les champs de patates.
Et là, ce qui s'est passé, c'était inadmissible. Et alors, quand je vois qu'à côté de ça, on se pérore à la fédération, au comité de normalité, en disant il faut faire ci, il faut faire ça, il faudrait que les journalistes posent des questions là-dessus, il faudrait peut-être qu'ils fassent ces quelques kilomètres qui séparent le centre d'Abidjan des Bimpé pour regarder l'état de la pelouse et changer cette pelouse. On me dit qu'on va la changer, bon, on va voir.
La plupart du temps, quand on sait qu'on va jouer en Afrique ou dans certains coins du monde, on sait que ça va être très compliqué au niveau de la pelouse, mais ce que je suis surpris pour Allaire, c'est qu'il a l'air surpris, mais il faut se préparer. C'est-à-dire que quand tu vas là-bas, tu sais que ça va être très compliqué, que peut-être il y a une partie du terrain qui va être complètement pleine d'eau. On le sait. Donc là, aujourd'hui,
c'est un stade neuf, là. Hein.
Non mais
c'est ça le pire.
Le problème, c'est que tu peux avoir tout le stade neuf que tu veux. Tu sais qu'à Guingamp, on avait refait le stade. Et il y a un côté, il est toujours joli, toujours plein d'eau. Hein. C'est à Guingamp, mais on nous a dit, j'ai joué, donc je peux t'assurer qu'il y a tout un côté, c'est toujours plein d'eau. C'était comme hiver. Bon, mais c'est comme ça. Alors, il y a un nouveau aujourd'hui.
C'est parce que c'est la Bretagne.
Non, mais là, il y a une infrastructure qui à Guingamp qui a été mise en place avec quelqu'un qui la gère du matin au soir, et ça va un petit peu mieux. Mais là, aujourd'hui, malheureusement, alors ça a bien marché pour la Côte d'Ivoire, mais à un moment donné, il faut se dire que c'est le lot de toutes les équipes qui et les joueurs qui jouent en Europe qui vont aller en Afrique.
Voilà,
on
ça.
Le sait. Donc
oui,
alors, pas besoin de nous raconter.
Mais pas complètement, parce que parce que il avait été dit quand même, parce que ça c'est important, c'est que la CAF, la nouvelle CAF, il y avait justement il y a eu des commissions qui sont déplacées à droite et à gauche pour juger
qui l'état ont respecté les pelouses.
Voilà, des commissions d'inspection pour regarder oui. toutes les états de pelouses. Donc il y avait autorisation ou interdiction de recevoir.
Il y avait
alors là
il
nous explique. Stade, hein. Regardez, on a fait des belles photos, on a fait ci, on a fait ça. Tout le monde sait que de façon imbimpée, la pelouse était mauvaise. Dans cet état-là, c'était bon, hein, on l'imaginait pas. Mais ça empêche, en plus, ce qui est incroyable pour les Ivoiriens, c'est ça qui est encore pire, c'est que je pense qu'une pelouse de temps très bon état, elle devrait les avantager, parce qu'il y a de très bons joueurs et de des joueurs très
techniques. Mais oui, c'est ce que dit Haller.
Il a 100% raison.
On va écouter un des techniciens de ceux qui ont installé cette pelouse, qui l'ont peaufinée, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est la société française d'ailleurs, Sparfel, chargée de s'occuper de cette pelouse. Et le monsieur qui s'appelle Tony, qui se présente comme étant Tony sur une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux, eh bien, il explique un peu ce qui s'est passé avec cette pelouse. Écoutez.
Nous avons fait un diagnostic simple et précis de la pelouse et il en est ressorti que le principal défaut pour le match de lundi soir contre le Cameroun, c'est la hauteur de la pelouse. Cette pelouse était entre 40 et 50 mm. On a tendu pour atteindre une hauteur appréciable. L'objectif a été atteint. L'air de jeu est praticable, un beau football. Le seul souci, qu'on va dire, c'est la couleur du gazon. Le gazon a un peu, on va dire, mal réagi sur la couleur. Il n'est pas verdoyant. Par contre, on aura la jouabilité que les joueurs apprécient. Après ce match face au Cameroun, nous allons réhabiliter totalement cette pelouse afin d'obtenir le résultat le plus convenable.
Voilà, la conclusion, c'est quand même qu'on va refaire totalement la pelouse. Mais évidemment, ça nous a beaucoup fait rire, malheureusement, excusez-nous, hein, Tony, cette vidéo, parce qu'en plus, la jouabilité, franchement...
C'est, encore une fois, c'est le mal du football. Ils sont en train de mettre des pelouses, ils font des terrains de foot, ils sont pas au courant comment ça fonctionne. C'est-à-dire que le mec, il dit n'importe quoi, en fait. Alors, c'était bien, mais la couleur un peu différente.
Je pense qu'il essaye de trouver des arguments.
Il a voulu cacher un peu les soucis.
Il y a une phrase ou deux qu'on n'a pas entendu, en fait, hein, parce que c'est au départ, c'est une vidéo. Donc là, c'est une synthèse, mais à un moment donné, il parle du traitement qui a été fait. Et effectivement, les photos d'il y a quelques temps, tu voyais un gazon, défaut d'être court, ras, pour favoriser le jeu, justement. Le gazon était plutôt vert. Là, le traitement, a priori, le gazon était malade.
Il a brûlé.
Il a brûlé. Ils l'ont flingué là, l'herbe. Et c'est clairement, ils l'ont flingué. Et il le disait dans l'extrait qui malheureusement n'est pas là. Mais c'est le grand n'importe quoi. Ça n'a pas empêché. C'est ça que je voulais ajouter. Alerte d'inscrire son troisième but sur ce terrain, parce qu'il avait marqué contre Madagascar quand il était entré, c'était en mars dernier. Ça avait permis de qualifier notamment la Côte d'Ivoire.
Mais là, il a mis
bon, même si le terrain est compliqué et que le monsieur joue sur plutôt des bons gazons aux Pays-Bas, c'est un finisseur et il s'est pas privé de marquer.
Ce qui est ennuyeux quand même pour cette équipe de Côte d'Ivoire, j'en parlais tout à l'heure, c'est que c'est vraiment une équipe de techniciens. Alors déjà, c'est ennuyeux pour toutes les équipes parce qu'on n'a pas joué sur un terrain comme ça, qu'on fait les éliminatoires Coupe du Monde. Mais en dehors de ça, c'est une équipe de techniciens. Il y a beaucoup de joueurs qui ont quand même un vrai potentiel. Un vrai talent technique.
On peut les citer, Jean-Michel Seri notamment, Jean-Hébert Kouassi,
même Sangaré, même Kouassi, même Allaire, plus ceux qui ne sont pas là, les A, les PP, Gradel qui était sur le banc, il y avait beaucoup de monde. Et alors sur deux matchs, ils ont quand même été légèrement ennuyés parce que Patrice Baumel fait quand même du bon boulot, je trouve, pour déjà avoir réussi à ramener pas mal de joueurs nouveaux dans cet effectif. Mais surtout, ils ont un premier match où ils ont, je ne sais pas combien de joueurs qui ne peuvent pas jouer parce que les Anglais leur donnent 10 jours sinon un retour. Donc ça fait qu'il a joué avec deux équipes différentes. Mm-hmm. Donc c'est compliqué. C'était très très compliqué pour les Ivoiriens aussi de se mettre à niveau parce qu'ils ont eu quasiment deux équipes différentes.
Autre polémique autour de ce match, c'est autour de Éric Choupo-Moting, le serial buteur, hein, on peut l'appeler comme ça, au Bayern de Munich, parce que récemment il avait signé un quadruplé, certes, dans un tour de la Coupe d'Allemagne.
Un tour de chauffe, moi j'appelle
ça. Un tour de chauffe, oui.
Ils ont gagné combien, 15-0, 12-0?
8-0, je crois. 8-0, ouais. Mais c'était une équipe de 5e division. Mais
faut,
en tout cas.
Il faut les marquer,
les buteurs. Il faut les marquer, exactement.
Il faut arrêter de dire ça.
On retrouve le buteur.
Donc, il avait mis un quadruplé, je crois qu'il avait fait aussi des passes décisives.
Il avait marqué avec Paris à des moments importants.
important, il me semble. En demi-finale, des trucs.
En Coupe d'Europe.
On ne prenait pas au sérieux, finalement. Il est pas mal, ce petit choupeau.
Mais voilà que celui qui était encore il y a peu le capitaine des Lions, 11 indomptables, n'était pas titulaire au coup d'envoi de ce match. Et il s'est entraîné, paraît-il, selon nos confrères, hein, qui voyaient bien, eux, ce qui se passait sur le bord de la pelouse pendant à peu près toute la deuxième mi-temps. Et il n'est jamais rentré. Alors, l'explication de son sélectionneur, ah ben, c'est la pelouse, là aussi, on y revient. J'ai fait une convocation de 23 joueurs, on choisit les joueurs en fonction des stratégies et tout. Au niveau stratégique, ça passait pour Choupo contre le Malawi. Mais aujourd'hui, vu l'état du stade, on a vu que Choupo-Moting aurait du mal à s'en sortir. Franck, qu'est-ce que vous pensez de cette explication, parce qu'il a été questionné, Antonio Conseil-Sang. Est-ce que il y a un malaise entre les deux personnages?
Je sais pas s'il y a un malaise, mais si je suis Choupo-Moting ou son papa ou sa famille, je trouve que c'est très insultant pour le joueur. Enfin, je veux dire, t'es joueur de foot, t'es professionnel, quel que soit le terrain, il pleut, il neige, il vente, tu t'en fous, tu peux jouer. C'est un garçon qui avait
le brassard.
Tu
peux marquer.
Il y a peu de temps. Et il peut marquer, il peut être passeur décisif. Je pense qu'à un moment donné, tu voyais que ça ne passait pas au bout d'une demi-heure. Tu pouvais même anticiper et le faire entrer à ce moment-là. Aboubakar n'a rien fait. On attendait beaucoup de lui. Je pense qu'un garçon comme Choupo-Moting, son vécu, ne serait-ce que sur son vécu, il aurait perturbé la défense axiale ivoirienne, où on voyait notamment Eric Bailly en difficulté. Ça aurait peut-être aussi ajouté à ça. Et ben pas du tout. On le laisse s'échauffer comme ça, comme un gamin. Je trouve que c'est vraiment insultant pour lui.
Il vient de loin.
Même si c'est peut-être pas l'idée première. Je veux dire, Tony Conceição, il a pas déclaré ça pour blesser le joueur. Mais c'est blessant. Je suis désolé. C'est pas un perdreau de l'année, Eric Choupo-Moting.
Ben c'est un homme qui a permis.
Oui,
plus,
puis,
hein,
et puis,
dans
et puis tu le disais, Marc, c'est aussi quelqu'un qui a permis au Paris Saint-Germain d'aller plutôt loin jusqu'en finale de Ligue des Champions. C'est pas un gars qui débute.
Mais pour revenir sur les terrains, je prends un exemple. Moi, j'étais un joueur, ce qu'on appelle grand compas. C'est-à-dire que moi, pour démarrer, il me fallait des grands compas. On va dans un match de coupe ou un match où la pelouse était trempée, où le terrain est vraiment mauvais. Je peux vous assurer que le coach ne me faisait pas démarrer par rapport à la situation, même si j'étais un titulaire ou pas. On va prendre un petit joueur à petit gabarit. On n'est pas à l'intérieur. Peut-être que lui ne sentait pas le terrain, les appuis. Ça, j'espère que c'est discuté parce que, comme je vous dis, Choupo-Moting fait aussi grand que moi, grande taille. Est-ce que pour lui, sur ce système-là, c'est peut-être en adéquation avec
grands,
lui?
Il n'y a que des grands dans l'équipe du Cameroun.
Oui,
ils sont tous à plus d'un mètre 80. Alors,
oui,
mais
tu vois, moi qui étais vraiment grand compas, c'est-à-dire que moi, je me développais après 10-12 mètres. Il y en a, c'était au bout de 2-3 mètres. Donc moi, j'étais plutôt le diesel qui allait aller plus vite et plus longtemps. Et certains, c'est sur 10 mètres où ça faisait la différence. Ouais. Et sur des terrains vraiment compliqués, là, on m'a dit, enfin, je l'ai vécu, tu sais, là, c'est pour toi,
Sébastien,
c'est plus compliqué.
Sébastien Haller, c'est un géant lui aussi tu vois, ça ne
mais
l'a pas gêné.
C'est peut-être qu'il est, entre guillemets, petit appui quand il démarre le ballon. Donc, il faut, j'entends ce que tu dis, mais peut-être que ça a été discuté avant.
Mais Hervé, en plus, on sait, à travers le papa d'Éric Choupo-Moting qu'il était extrêmement déçu, qu'il s'estimait bien préparé et qu'il était venu pour jouer.
Il y a une belle anecdote d'ailleurs.
Moi, son père m'avait raconté à une époque, il y a quelques années, que quand il était plus jeune, il organisait spécialement des tournois pour son fils en Afrique quand il avait 12, 13, 14, 15 ans, parce qu'il voulait absolument qu'il représente évidemment les Lions indomptables. Et il allait partout, hein, pas spécialement au Cameroun, hein, ça pouvait être en Côte d'Ivoire, ça pouvait être dans le Sénégal. Il organisait pour justement que son fils s'habitue à jouer sur des terrains qui étaient entre guillemets mauvais,
moins
on va dire, voilà. Moins confortable. Lui qui était habitué à des terrains en Allemagne. Il me dit, je l'ai habitué à ça pour des prises de balles, pour des contrôles, pour des courses.
C'est bien, c'est
alors,
bien.
Alors, oui, j'imagine, si vous voulez, que lui donner comme raison qu'il aurait du mal à s'exprimer sur un tel terrain. Ça a dû évidemment faire grincer des dents à son père. Et puis surtout, ce qui est étonnant, c'est que
Au Cameroun, hein, on s'interroge, on se dit quand même.
Vous êtes mené, vous êtes mené, parce qu'à la rigueur, vous mettez pas titulaire. Vous estimez qu'il a pas été assez bon contre le Mozambique. Bon, on peut en discuter. Alors, mais ça fait un peu déclassement quand même. Hein. Capitaine, d'un seul coup, on découvre que c'est Vincent Aboubakar capitaine, et maintenant il joue même pas sur le match suivant. Donc, on peut aussi se dire, vous êtes mené, il fait rentrer Toko Ekambi, Baoken. Et ben à un moment,
il y a Aboubakar qui sort. Aboubakar
sort.
46e, c'est terrible. 46e, ça veut dire qu'il y a un problème.
Aboubakar sort tout de suite, ouais. Donc il fait sortir tout de suite Aboubakar. Donc c'est son capitaine, donc on peut pas dire que c'est une mauvaise entente entre les deux. C'est que ça fait
un choix.
Mais en revanche, Choupo-Moting, un moment qui s'échauffe, faites-le rentrer au moins un quart d'heure. On sait jamais, peut-être 20 minutes, une demi-heure.
Ouais,
alors je peux comprendre qu'effectivement
il a fait que Paris Saint-Germain
d'énervement.
C'est énorme.
Je connais pas Choupo. Désolé.
En plus, on se souvient qu'il était capitaine quand même de cette équipe. Vous parlez de déclassement, c'est pareil. Et bon, alors, après, un sélectionneur peut faire des choix, mais il ne l'a jamais dit. Et donc, Choupo-Moting, en plus, c'est Vincent Aboubakar qui, aujourd'hui, est le capitaine.
Surtout, n'oublions jamais, en plus, que le rôle de capitaine chez Lyon Indomptable, c'est quelque chose de capital. C'est très, très important. Pareil chez les éléphants. Hein. On met les voilà, deux équipes dans le même... Dans beaucoup d'équipes, de toute façon, en général. Mais enfin, bon, puisqu'on parle de ces deux équipes. Donc, oui, c'est quelque chose de capital. On se souvient des histoires qui avaient existé quand Paul Le Guen avait décidé de donner le brassard à Samuel Eto'o en le retirant à Rigo Berson, qui était capi. Donc,
ça crée des tensions, des déséquilibres.
Et là, je pense que Choupo-Moting a dû le prendre très, très, très mal, même si c'est quelqu'un de très, très bien. Franchement, alors, on peut le connaître.
Tu voyais sur les réseaux, quelques heures avant, il était sur les réseaux avec tous ses copains, il faisait des photos, il se baladait, il faisait la petite marche, tu sais, d'avant match. Ça, ils étaient
le réveil matinal.
Ouais, tu sens quelqu'un qui s'est investi, qui est de retour à un moment donné. C'est vrai qu'il avait boudé l'équipe nationale, mais ça remonte maintenant à quelques années.
Il y en a beaucoup qui l'ont fait.
Depuis, il est revenu.
Mais il y avait aussi ce problème. Vous vous souvenez du fax, là, soi-disant envoyé par reçu et tout.
Il y a tellement d'histoires là-bas.
Mais il y a plein de petites histoires avec Choupo-Moting et ce nouveau sélectionneur. Pour terminer sur les Camerounais, Hervé, il y a eu encore un petit problème. C'était entre ce différent entre la presse et la FECA Foot quand même. C'était le premier match, hein, Malawi.
Contre le Malawi.
Ah oui, alors mais quelque chose d'incroyable où la FECA Foot et le ministre des Sports du Cameroun interdisent tout journaliste. Pays de la CAN quand même, hein. On est allé voir les matchs pendant la CAN, on était nous-mêmes sur le terrain et futur pays de la CAN, aucun journaliste n'a pu assister à ce match. C'est sidérant. En plus, on le sait, nous les journalistes et nos confrères africains comme nous, on doit faire des tests, on doit les fournir et tout. Donc en gros, on a le passeport sanitaire qui autorise à être 50 ou 100 dans un stade de je sais pas combien de milliers de places, 60 000 ou...
Ah, c'est totalement sidérant. Alors si c'est la FECA Foot qui a décidé ça, c'est incompréhensible. Après, on va taper sur la FIF, mais on va taper sur la FECA Foot. C'est totalement délirant parce que je ne vois pas pourquoi. Alors, si la seule possibilité, moi, la seule chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de dire le stade n'est pas prêt et on ne veut pas que certains racontent. Mais de toute façon, il y a plein de gens dans le stade. Donc, ce n'est pas parce que les journalistes viennent ou ne viennent pas qu'on ne saura pas s'il y a encore des manques ou des manquements dans la tribune de presse.
Ça avait l'air très compliqué. Mais... Nana Broglio, problème avec une des associations de journalistes sportifs, et il y en a plusieurs au Cameroun, faut le savoir. Nos collègues, ils sont pas forcément unis. Il y a plusieurs associations, plusieurs chapelles. C'est comme ça. C'était le cas en Côte d'Ivoire il y a peu de temps aussi. Et donc il y a ça. Il y avait un nombre apparemment limité pour les gens qui pouvaient assister, puisque tu pouvais pas avoir une jauge normale. Donc c'était très très restreint. C'était même pas 100 personnes, je crois. Et du coup, si j'ai bien lu ce qu'on a lu sur les réseaux sociaux, le ministre de tutelle a fini par inviter combien? 10 journalistes.
D'ailleurs, certains ont refusé, parce qu'à un moment,
il y en a qui venaient du Malawi, il y en a qui venaient des quatre coins du Cameroun.
Mais il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont déplacés. C'est la veille, on leur dit finalement vous ne rentrez pas au stade. Alors, vous venez du Malawi, ils disent mais on ne rentre pas au stade. Pourquoi? Il y a bien un match demain. On parle d'un pays qui va organiser la CAN, on parle d'un pays qui a organisé le CHAN, et on parle d'un pays où il y avait eu un match déjà la veille à Douala.
Pour la Centrafrique.
Donc on nage en plein dire. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Moi, je ne vois qu'une seule hypothèse. Hein. C'est pour cacher quelque chose, des manquements qu'il pourrait y avoir à Olembe.
On écoutera la suite de cette histoire
grâce à nos confrères camerounais. Autre résultat de ces éliminatoires sur le terrain africain, on va faire un petit crochet. Bien, c'est entre Bafana et Black Star.
Promising play, Dana the flank. Brave. Still with South Africa, golden opportunity, and there's a goal! The breakthrough! The hosts have done it! It was messy, it was scrappy, but who cares? Bafana, take the lead, 1-0.
Notre ami Franck Simon qui vibre pour les Bafana, on se souvient toujours pendant le confinement.
Ah, vous savez, c'est ma jeunesse, l'Afrique du Sud alors.
Dans les veines.
Ouais.
Cette Afrique
J'aime
du
ce
Sud,
pays.
Première, ouais, nous aussi, on y avait passé un très bon moment au moment de la CAN. L'Afrique du Sud, première du groupe G et le Ghana seulement troisième. Or, on se souvient tous, Hervé, de cette équipe quand même en Coupe du Monde, les Black Stars, 2006. Et ils sont éliminés en huitième de finale 2010. Évidemment, on les voyait tous déjà en demi-finale, mais ils sont arrêtés en quart et on se souvient tous de ce penalty de Samoa Gyan. Et puis 2014 au Brésil. Depuis, ils n'y sont plus. Est-ce qu'on doit se résoudre à parler d'ex-mondialistes ?
Pas nécessairement.
Parce qu'à la CAN non plus, depuis la finale de 2015 où on voyait André Ayew pleurer si chaud de larmes quand ils perdent, on a l'impression que c'est une période de transition qui dure.
Oui, mais sur le papier, c'est pas une si mauvaise équipe. Alors, on n'est pas au niveau des Essien, Muntari et compagnie. Ça,
t'es gentil. Qu'est-ce que t'es gentil ?
Faut pas se mentir.
Ils sont dans la sauce,
mais,
hein, les Ghanéens.
Mais il y a encore des joueurs qui sont pas si inintéressants que ça. Le problème, c'est que il y a un entraîneur qui a un peu de difficulté à mettre en place, a fait des choix qu'on peut s'interroger. Par exemple, même les frères Ayew, en ce moment, ils sont pas au top parce qu'il y en a un qui est parti au Qatar. Il va revenir, hein, parce que je me fais pas de soucis avec André Ayew. Mais il a eu des choix un petit peu particuliers et on sent que ça fonctionne pas complètement. Simplement, le président du pays a prévenu qu'il voulait pas d'étrangers, hein, comme sélectionneur de l'équipe du Ghana. Donc, ils vont rester avec Connor, mais c'est compliqué. On a la sensation quand même que l'entraîneur, parce que défensivement,
fais un test tout simple. Demande à nos amis. Citez-nous des joueurs hormis les frères Ayew dans cette équipe.
Ah ouais, c'est ce que j'allais dire.
À l'époque, t'aurais pu en citer. Vous auriez pu en citer aussi.
Oui, c'est vrai.
Bon, vous connaissez qui dans cette équipe? Je te laisse terminer sur Djikou. Parce qu'il y a plusieurs mecs qui sont en France en plus.
Ouais, non, mais il y a quelques mecs en France. Djikou, c'est peut-être été le meilleur joueur des deux matchs. Ils ont une défense qui tient encore là. Route avec Amarté, des joueurs de ce calibre-là, il y a encore des joueurs intéressants.
Sauf qu'hier, il n'était pas là.
T'avais
Jonathan,
mais il y a Jonathan Mensah qui fait des bons matchs, qui est aussi encore
c'est
dans le coup,
même
s'il est parti aux États-Unis. Ouais. Mais il n'empêche, il y a encore des joueurs, c'est pas l'équipe de ce calibre-là, mais j'hésiterais de les barrer complètement pour la qualification, parce que l'Afrique du Sud, j'ai pas une confiance immense non plus. D'autant plus là, ils sont quand même battus par une équipe d'Afrique du Sud, qui était surtout une équipe quasiment Jeux Olympiques. On va dire Jeux Olympiques.
Ah ouais, franchement, pareil, là, on va faire le test. Vous connaissez les joueurs
Mais c'est pire,
le buteur, je vais te donner son nom. C'est un garçon qui joue d'abord à Maritzburg United, qui est quand même pas le plus grand club d'Afrique du Sud.
C'est pas un des
Il s'appelle Bongo Kutle Tlongkwane. On le connaissait pas avant les Jeux Olympiques.
Non, mais c'est surtout une équipe des JO, donc c'est pour ça que c'est un vrai échec pour le Ghana, et c'est pour ça que l'entraîneur a aussi une grande responsabilité.
T'as un seul gars qu'on connaît, c'est Percy Tau, qui est passé un petit peu en Europe, en Belgique, en Angleterre. Ça n'a pas fonctionné. Il vient de signer au Ahly du Caire, où il a rejoint Pitsomo Simané. Donc, retrouvaille entre les deux hommes. Mais pour le reste, j'ai regardé le match hier sur la télé sud-africaine, sur SABC 3. C'était drôle parce que t'avais l'impression d'assister effectivement à un match du Chan.
Oui, bien sûr.
Quelque part, avec beaucoup de joueurs du championnat national. Ouais. Et d'autre côté, moi, une équipe du Ghana qui, franchement, m'enthousiasme pas. Et pourtant, le monsieur qui est sur le banc, je le connais bien. Si vous saviez, je le connais très, très bien, Charles Akounor. Malheureusement, comme tu l'as exprimé,
il a beaucoup de mal et il est très critiqué au pays. Le seul problème, c'est qu'il y a peu de chances qu'il quitte le blanc, de toute façon, gagné. Hein.
Et monsieur Hugo Broos. Donc,
attention, lui,
ancien sélectionneur vainqueur de la CAN 2017 avec le Cameroun. Alors lui, c'est son deuxième match. J'avais pas compris
avec l'Afrique du Sud.
Pas compris parce qu'il n'était pas à la COSAFA au mois de juillet organisée en Afrique du Sud. Il les a pas accompagnés à Tokyo où il y avait quand même une équipe intéressante. Néanmoins, il a fait son travail apparemment puisqu'il les a appelés pour ces
en dépit de toutes les critiques qu'il avait reçues, énorme boulot au Cameroun.
On s'en souvient très bien.
Il s'était fait critiquer terriblement et puis quand il a gagné, tout le monde était d'accord.
Pour terminer sur ce chapitre Afrique, les pharaons qui ne fanfaronnent guère, même si ils sont en tête de leur groupe. Hein. Alors, je le précise toujours, c'est au bout de deux journées, mais bon, on sait qu'il y en a que six, et donc c'est assez dur en Afrique. En plus, Mo Salah les avait rejoints pour le match au Gabon. Alors, ils ne perdaient plus avec leur nouveau sélectionneur, mais les voilà sans guide. Ossam El Badri, viré hier soir par la fédération, remercié lors d'une réunion de toute urgence au Caire, a précisé cette fédération égyptienne.
Le comité
d'urgence.
Oui, mais c'est le comité. Il y a un comité de normalisation aussi en Égypte.
Oui,
depuis la Coupe d'Afrique 2019.
Et vous coupez l'herbe sous le pied d'une certaine façon, mais justement, Franck, est-ce qu'on est dans les remous encore de cette élimination trop précoce à la CAN de 2019?
Ils ne l'ont pas digéré. Quand vous connaissez l'Égypte, ce sentiment qu'ils ont d'hégémonie, de suprématie sur le football
africain. Ils ont tellement beau palmarès.
Oui, mais enfin, ça, il n'y a pas que le palmarès.
Bah non, on le sait.
Ils s'étaient fait écarter par l'Afrique du Sud. J'avais commenté le match. Alors, j'étais évidemment très surpris de voir les Pharaons se faire comme ça éliminer à la maison devant leur public. Il n'empêche, on a appelé quelqu'un derrière sur le banc, donc ce monsieur Ousama El-Badri, 9 matchs, 5 victoires, 4 nuls, sauf que ben ça fonctionne pas, enfin ça ressemble pas à grand chose, même avec avec Mo Salah, même avec les joueurs du Erli, bah, même avec Nemi, même avec Trezeguet,
tout ça. On l'a vu à la Coupe du Monde déjà,
mais
et c'est, tout ça.
Oui,
hein,
mais là, on attendait de ce monsieur qui a quand même fait gagner le Erli en Ligue des Champions, en championnat, tout ça, on l'attendait de lui qui remette un petit peu les choses qui de façon un peu plus correcte. Et ils sont qualifiés finalement pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations à la faveur de la double confrontation contre le Togo, hein, parce que sinon ils étaient quand même très très mal. Donc les Comores finalement partent aussi avec eux, mais l'Égypte n'a pas du tout impressionné. Et là, depuis le début, ces éliminatoires, c'est très poussif. Ils s'en sortent.
Il a des problèmes relationnels avec quelques joueurs, donc El Neni notamment.
Ouais. Tu as vu comment ça s'est passé. Ils sont à 10 contre 11 en plus contre les Panthères du Gabon.
Oh, mais ça, les Gabonais ont laissé partir 2 points de manière invraisemblable.
Ouais, mais oui.
En fin de match. Voilà, un petit résultat de l'après-midi à noter. Madagascar battu 3-2 en Tanzanie, hein, alors qu'ils avaient
deuxième
bien
défaite.
Réagi. Ouais, malheureusement, deuxième défaite pour notre ami Rabé. Retour au foot européen en passant par l'Amérique du Sud et on va se tourner vers Marc Libre. Les internationaux sud-américains sont encore et toujours avec leur sélection, même si le rendez-vous, alors on y faisait allusion, tant espéré entre Brésil et Argentine n'a pas eu lieu. Il reste encore un match aux 10 équipes sud-américaines, par exemple Argentine, Bolivie, Brésil, Pérou ou encore Colombie, Chili. Mais pour le plus grand désespoir des dirigeants des clubs, alors autant en France que sans doute ailleurs, eh bien ils sont toujours là-bas. On avait entendu grincer des dents un peu avant qu'ils partent. Mais là, ça grince encore plus. Par exemple, Marc Libra, le match PSG Clermont, eh bien, ça sera sans Messi, ni Neymar, ni Marquinhos, ni Di Maria. Du côté de l'OL contre Strasbourg, là, on sera sans Paqueta et Bruno Guimarães. Ouais. Et puis, dans des championnats.
L'OM sans Gerson.
Exact, aussi. Ouais. On aura Falcao. Qui ne jouera pas avec le Rayo Vallecano où il vient d'arriver en Espagne, et puis Cuadrado avec la Juventus.
Les matchs ont été remis en Espagne. Les matchs ont été remis. Les deux matchs, le match de Barcelone et puis le match de Rayo Vallecano, ont
pour
été
attendre
été
remis. Les internationaux. Oui, c'est alors bien, c'est plus intelligent.
Ouais, ça.
Est-ce que finalement ils ont raison de râler les dirigeants de club?
Ben, on se rend compte que les Anglais qui, il y a quelques semaines, ont annoncé clairement qu'ils ne voulaient pas, les clubs anglais ne voulaient pas envoyer leurs joueurs en sélection parce qu'il y avait cette quarantaine, zone rouge par rapport à l'Angleterre. Ils avaient peut-être raison, parce que ça peut fausser le championnat. Moi, j'ai un amour propre pour la sélection nationale.
Mais là, c'était parce qu'il y avait une troisième journée.
Oui, oui, parce qu'il y
en Amérique du
Sud.
Là, ils jouent, on dit vendredi, mais c'est en fait dans la nuit de jeudi à vendredi. Et donc, ils vont arriver vendredi soir ou samedi matin en Europe.
Oui, mais le problème, c'est que les Anglais ont pris ça dès le départ, en sachant qu'il y a 10 ou 11 jours en Angleterre. C'est quand ils vont rentrer les 4 Brésiliens qui sont...
10 jours.
Voilà, il y a 10 jours non-stop où ils ne bougent plus. C'est-à-dire qu'on ne fait rien, on attend. Donc, dans la préparation, c'est jamais très bon. La Ligue des Champions arrive, les premiers matchs
14,
importants.
14-15 septembre.
Donc, ça va être très difficile. Mais on se rend compte que c'était peut-être pas forcément bête de dire cela. Après, avec cette période qu'on vit avec la Covid depuis bientôt 2 ans, il faut se dire que le paysage footballistique est totalement différent et qu'aujourd'hui, on ne peut plus gérer comme avant. Moi, je suis un amour de la sélection et je me dis, il faut que j'aille en sélection. Mais quand on voit ce qui se passe et que certains pays sont en train de mettre en place, le fiasco de Brésil, Argentine, c'est pas possible. C'est-à-dire que on pensait que nous, il y a que nous qu'on était capable de faire des bêtises à Nice, mais en fait, c'est le football devient la risée de tout, quoi. On fait n'importe quoi. C'est-à-dire un mec qui rentre tranquille, en claquette, avec le journal derrière, reviens là, tu sors. Non, mais, enfin, on s'est cru le dimanche matin avec les copains, quoi. Donc, c'est assez hallucinant. Et aujourd'hui, je pense que dans ces cas-là, ou alors, comme le dit Hervé, on repousse les matchs. Et certaines équipes peuvent dire, mais attendez, alors nous, on n'a pas d'internationaux, donc on fait quoi? Nous, on joue tous les matchs, on n'est pas fatigué. Donc, ça va créer quand même un petit problème, mais il va falloir penser à ce genre de choses. Et il y a encore en octobre, il y en a qui repartent.
Laurent Nicolin, dans l'équipe, ce matin, avec Étienne Moati, parle d'équité sportive qui est remise en cause.
C'est clair.
Bah, on verra au final. Ça, on peut pas le dire aujourd'hui, hein, parce que vous savez, c'est parfois que, vous pouvez avoir des absences et gagner un match. Hein.
Oui, mais justement, Clermont qui joue contre le PSG sans ces deux joueurs, bon, ces quatre joueurs sud-américains.
Qu'ils ont récupéré Bayo, le Guinéen.
Oui, ils vont le récupérer. Il arrive ce soir.
Mais que par exemple, ensuite Montpellier s'ils jouent contre le PSG, mais qu'ils sont complètement tous alignés. Ces deux matchs, ça fausse effectivement évidemment. Le tableau
du championnat. Non, mais évidemment que ça le fausse. On est dans une période très particulière, c'est pour ça qu'il a fallu rajouter un match dans les éliminatoires zone sud.
Ça va se repasser sur la prochaine fenêtre d'octobre.
Ça va se repasser. Et puis je crois qu'il y a encore une fenêtre en janvier.
Fin janvier, 24 janvier.
J'étais pas au courant, j'ai découvert ça.
Oui, parce qu'on a une Coupe du Monde dans un an.
Et t'auras ceux de la CAN qui sont partis aussi.
Il y a certaines équipes. Là, pour le coup, je ne sais pas comment ils vont faire. Je pensais à Lyon, par exemple, entre les joueurs attaquants qui sont partis à la CAN, plus Bruno Guimaraes, Paqueta en moins. Là, ça va.
Kadewere, Toko Ekambi,
Slimani. Donc là, ça va faire une équipe, effectivement, très, très amoindrie. Et pareil pour le PSG, hein, parce que vous allez perdre aussi Gueye, vous allez perdre Abdou Diallo.
Mais ce que se dit Hervé est très important sur ce coup-là, parce que si on dit au PSG, ou alors, par exemple, en Espagne, on va décaler, mais moi, je suis Lyon, ou je suis. J'ai quatre joueurs qui partent à la CAN, m'attendez, mais moi, mes joueurs, moi je joue pas, j'attends qu'ils reviennent. Attendez, on l'a fait pour voir Messi, pour voir. Et pourquoi on le fait pas pour les équipes?
Mais donc, le problème, c'est de décaler des matchs.
Avec la Covid, ça change tout. Parce que là, par rapport aux Anglais, t'as 10 jours à la maison.
Tu peux pas. Parce que de toute façon, tu pourrais pas décaler 8
c'est
matchs.
Bien sûr.
De toute façon, aujourd'hui, décaler des matchs, c'est quasi impossible sur un calendrier. On prend le calendrier français. Alors, j'ai vu qu'en Espagne, ils ont décidé ça sur deux matchs. Attendez, c'est pas la Ligue qui a décidé. C'est qu'ils sont allés plus haut, je crois, auprès de je sais plus qui est le tribunal, qui leur a donné raison. Mais attention, après, il faut les caser les matchs. Parce que quand vous êtes Barcelone, vous avez des matchs
les
5 jours.
En semaine, etc.
Alors là, je ne sais pas comment ils vont gérer leur.
Nous, on est bien. Nous, il n'y a plus de Coupe de la Ligue, c'est bien. Nous, on n'est pas embêtés.
Erreur. On a l'impression, Franck, en plus, que finalement, les instances refusent de se parler ou de se mettre d'accord. Parce que là, la FIFA, elle ne veut pas entendre. Alors qu'il y a quand même une association de clubs internationale. Là, le World, j'ai oublié le nom, mais il y a une association qui. Le World League Forum, voilà, 40 clubs professionnels. On imagine que l'ECA aussi, avec les grands clubs. Et on a l'impression que ces instances finalement s'ignorent. Chacun défend sa chapelle.
C'est ça de toute façon. Mais pourtant, c'est nécessaire de pouvoir travailler ensemble parce qu'il s'agit de travailler ensemble. Ça fait des années qu'on nous bassine avec l'idée d'harmoniser les calendriers, de prévoir justement ces situations.
Ils le feront jamais.
Mais ils ne le feront jamais. On ne voit pas arriver en tout cas.
Écoutons d'ailleurs l'entraîneur Tite de la sélection brésilienne. Je le précise, c'était avant ce fameux grand match et tout. Il parle pas de ça, mais il parle aussi du problème qu'ont les Sud-Américains parce qu'eux, ils ont des éliminatoires. Alors peut-être qu'il faudra les revoir, mais qui sont longues et évidemment leurs joueurs, ceux qui jouent en Europe, et il y en a beaucoup, un peu comme en Afrique, eh bien c'est essentiel.
J'espère que le bon sens aussi des entités.
J'espère que les organisations européennes vont nous laisser travailler, pas seulement le Brésil, mais tous les pays d'Amérique du Sud qui se préparent pour la Coupe du Monde. Ce n'est pas seulement le cas du Brésil, on a besoin de temps pour se préparer en tant qu'équipe. Vous pouvez voir que toutes les nations sud-américaines ont une série de qualifications faussées. En plus, nous n'aurons pas le même temps et les mêmes préparations pour la Coupe du Monde, ce qui donne l'avantage à d'autres équipes, notamment des nations européennes.
Ces équipes en plus sud-américaines, elles peuvent se sentir elles aussi un peu victimes de ce système, Marc, parce qu'à chaque fois les joueurs ils arrivent, ils traversent l'Atlantique. Alors certains ont leur avion privé, mais c'est pas le cas de tout le monde.
Ah oui, non,
et,
c'est sûr.
Et après il faut revenir et tout, c'est 12 heures de vol, c'est des climats qui sont différents.
Les joueurs brésiliens, enfin argentins sont partis avec la sélection, d'autres ne sont pas partis, d'autres sont restés dans leur club en Angleterre pour respecter leur club. Donc en fait ils sont privés de sélection.
Ouais.
Mais quand on voit ce qui se passe au retour, on se dit est-ce que ça vous rend le coup? Et là, on doit faire un choix. Donc, c'est là
scandaleux.
Que c'est très compliqué. T'imagines ce que tu dois demander à un joueur, c'est-à-dire ton club qui te paye toute l'année et qui te dit, on fait quoi?
Moi, je trouve l'attitude des clubs anglais était scandaleuse. On l'a vu aussi avec les joueurs en Afrique. Absolument scandaleux. Eux, ça leur posait aucun problème durant l'Euro de que les VIP puissent aller voir les matchs, aller au final, ça posait aucun souci. Mais en revanche, des joueurs qui sont contrôlés tout le temps, qui sont pour la plupart, qui ont des vaccins, qui sont vaccinés,
observer
et qu'on peut tester et on leur refuse d'aller jouer des matchs de football.
C'est du deux poids deux mesures. Non, mais là aussi il n'y a pas d'équité. Désolé.
Vous avez raison à ce que vous dites, mais regardez Arsenal début de saison, il y a 9-10 joueurs, ils sont testés tous les 48 heures, ils ont la Covid, il y a 9 joueurs qui peuvent pas jouer. Regardez début de saison d'Arsenal, c'est compliqué. Et quand c'est Arsenal, c'est un autre club, ils attrapent tous la Covid. Alors
alors qu'ils aillent, ils peuvent toujours aller jouer pour leur sélection.
Mais
non,
tu peux pas. C'est ça compliqué.
Non, mais
après c'est le joueur. Quand tu dois laisser le choix au joueur, voilà. Ouais. Tu fais ça. Par contre, ouais, tu sais, dans ton club, pendant 10 jours, tu peux
mais
pas jouer.
Le joueur peut à la liberté de dire, la FIFA nous autorise.
Ils ont un peu peur, les joueurs ont un peu peur. Mais moi, j'aimerais bien des joueurs qui aient pas peur. Quand vous êtes Salah, vous dites, moi, de toute façon, j'y vais.
Mais Salah, il peut le dire.
Il l'a pas fait.
C'est certain.
Il a eu un peu peur.
Il a eu un peu peur.
Et on évoquait les cas de Covid. Il y avait eu pas mal de cas lors de la dernière fenêtre, la grande fenêtre internationale de mars. Il y avait d'ailleurs une étude de la Confédération africaine, et là il y en a eu très très peu, parce qu'entre temps il y a eu les campagnes de vaccination, il y a eu où tous les joueurs y sont passés, les multiples tests, ils sont soumis à combien de tests, des fois 3 fois, 4 fois, 5 fois par semaine. Donc
alors, mais ils le font certainement moins, parce que s'ils sont vaccinés, il n'y a pas de raison de les tester tous les 2-3 jours. Si.
En tout cas, on peut s'inquiéter, c'est pour le football testé, de sélection là, parce que c'est la passion. C'est ce qui aussi passionne par intervalles réguliers, et là
non mais c'est terrible pour les pays là, Brésil, sud-américain, parce que là ils se retrouvent vraiment montrés du doigt.
Non,
mais c'est absolument incroyable. Mais ça a été pareil pour les pays africains.
Et
je parlais tout à l'heure de la Côte d'Ivoire, où il a fallu que des joueurs restent à Abidjan, hein, les Bailly, Boli et compagnie, spécialement parce que vous n'avez pas le droit au Mozambique, vous êtes en zone rouge. Pour faire un aller-retour sur le Mozambique, mais pourquoi vous l'attrapez où? Dans les airs? Enfin, faut être sérieux.
Ouais. Bon, allez, on continue sur quelque chose, vous allez voir, de plus léger et de plus latin.
Ciao, buonasera a tutti. Voglio dire una cosa, sono molto contento di essere oggi con voi, con la mia nuova squadra, con l'allenatore, staff, e abbiamo tutti un obiettivo di salvare questo anno tutti insieme.
Reçu comme une star dans le petit stade de l'Arechi, Franck Ribéry, dans le sud de l'Italie. Vous l'avez entendu, il a pris le goût à l'italien. On savait qu'il parlait très bien allemand. Et là, on entend qu'en 2 ans, il est devenu peut-être bilingue en italien.
Et l'anglais aussi, il parle l'anglais.
Ouais.
Quadrilingue, Franck. Ouais, et voilà. Et il arrive dans un club qui a connu Rigobert Song.
Exact.
Ah, Salernitana, souviens-toi.
Exact, il y a longtemps.
Eh bien, je sais pas si c'est sa motivation, mais en tout cas, il a pris goût à la Serie A, puisqu'à 38 ans, l'ancienne vedette du Bayern, donc, il a décidé de prolonger, mais, il prolonge du côté, donc, de Salerne, à la Salernita, petite ville de Campanie, voisine de Naples. Et, dans cette ville, eh bien, le directeur sportif, vous allez voir, il a utilisé une ficelle un peu grosse, mais Angelo Fabiani a pris un raccourci. C'est notre Maradona. E Franchi ha quand même répondu.
Non puoi dimenticare Maradona che ha fatto.
On ne peut pas oublier Maradona et tout ce qu'il a fait. Je ne suis pas venu ici pour me comparer à Maradona, mais pour faire mon travail. Je suis une personne qui ne compte pas ses efforts et qui fait son maximum pour l'équipe et les supporters. C'est ma mentalité. Plus tôt je commence à jouer dans l'équipe, mieux ce sera. Mais pour l'instant, il me faut encore un peu de temps.
Però manda un po' di tempo adesso.
Bon, il est devenu le Maradona de Salerne.
Ah, mais à une époque en France, en 2006-2007, c'est notre Maradona, non, faut pas l'oublier.
Quand il était à Marseille.
Et Zizou.
Oui, mais je parle en équipe de France aussi. En équipe de France. Oui, non, mais façon de parler, c'était quelqu'un, c'était un ovni. Il a débarqué sur la planète football, c'est un ovni. Je l'ai côtoyé à Metz et puis après à Marseille. C'était assez hallucinant. Mais moi, je suis pas étonné, je suis assez surpris que des clubs français ne récupèrent pas un tel joueur, parce qu'il n'a jamais triché. C'est quelqu'un qui est franc, qui dit ce qu'il pense. Après, avec ses défauts et ses qualités, un gros bosseur.
Il avait peut-être envie de rester en Italie.
Non, mais oui, peut-être, mais je pense que le salaire, je sais pas. Après, je pense qu'il a été proposé à pas mal de clubs et qu'ils lui ont fermé la porte. À 37 ou 38 ans.
Il voulait rester à Florence, d'ailleurs, hein.
Bah, à 37 ou 38 ans, malheureusement, on considère qu'on est un peu fini. Mais à la FIO, bon, on passe pas 12 ans au Bayern de Munich en étant une des références à son poste. Et pour moi, 2013, il doit être le meilleur joueur du monde. Mais il a pas eu. On était, je crois, en plateau ensemble. Enfin, bon, vieille histoire. Mais il fait quand même plus de 50 matchs, il me semble. 55.
51.
Ouais, voilà, mais avec la coupe et tout, il fait mal de matchs. Il marque pas beaucoup de buts, mais il a une influence dans le jeu. Et ça rapporte un peu des points. Et c'est vrai que là, Salernitana, moi, je suis très content pour eux parce que je pense qu'il peut. De toute façon, si vraiment il est cramé, il le dira, il pourra plus. Parce que là, il vous dit déjà, il me faut du temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'il remette la machine en route. Mmh. Et quand on a 38 ans, c'est pas qu'on a comme on a 28 ans. Et dès qu'il sera opérationnel, il va jouer, il va faire le taf parce qu'il est capable de le faire. Et moi, je suis très content pour lui. J'aurais aimé le voir en France, mais bon, malheureusement.
Sa mission, Franck, ça sera.
Il l'a dit, sauver, salvage, voilà. Ouais, sauver le club promu de la
Salernitana. Aider le club à se maintenir.
Ouais, exactement. C'est un objectif. C'est pas un objectif modeste, c'est pas simple.
C'est un challenge très dur.
C'est très dur. Lui, il a souvent été habitué à aller chercher, à conquérir des titres, mais ça, ça vaut. C'est l'équivalent d'un titre, hein, de se maintenir avec un club
promu. Dans l'élite,
c'est comme la Salernitana qui revient après tant d'années passées dans les échelons inférieurs. Et donc, évidemment, quand il va revenir, ça va beaucoup focaliser sur lui. Lui, il va prendre cette lumière-là, ça ne le dérange pas. Et ça peut aussi libérer ses plus jeunes coéquipiers. Parce qu'il va, même s'il n'est pas tout de suite, tu sais, sur le terrain, mais il va les aider, il va aller à l'entraînement, il va leur parler, il va leur apporter tout ça, ce vécu qu'il a engrangé. Et je pense que c'est intéressant. Et il a surtout... Je pense qu'il a encore la passion et l'envie. C'est toujours ça le plus important. Ouais.
Les clubs qui essayent de se maintenir recrutent comme ça des stars, des grandes stars pour les aider. Je pense justement à Falcao, par exemple, Rayo Vallecano qui vient de monter en
Liga. Je pense à Rami.
Oui, aussi. Ouais.
C'est important.
Mais
c'est
oui, Adil Rami avec
trois. Pas mal avec trois. C'est pas mal. Moi, je trouve que c'est intéressant. Mais bon, après, on verra.
Oui.
C'est des fois des joueurs. Des fois, ce sont des joueurs déchus. Des fois, on a un Balotelli aussi qui arrive dans un club.
De toute façon, j'allais dire qu'on le saura qu'à la fin. S'il a été conservé par la Fiorentina, c'est qu'ils estimaient que bon, ça, il avait fait son temps là-bas, qui est pas le top club italien, mais un bon club italien. Ouais. Peut-être qu'aujourd'hui, il a besoin d'aller dans un club un peu moins important. Alors, il demandait peut-être un salaire important. Et puis, en France, il serait revenu dans un club, ça aurait été un club de plus petit niveau, évidemment. Et
Tu penses qu'à l'OM, il n'aurait pas récupéré?
Non, je pense qu'à l'OM, ça aurait été.
Ah, j'aurais aimé.
Ouais, mais c'était un peu la fin, la fin d'une histoire. C'est difficile de revenir à 38 ans. Donc, mettons à lui de montrer qu'il est encore capable de faire des différences et effectivement de permettre à son club de se maintenir, ce qui serait déjà magnifique pour lui, parce que c'est quand même un joueur attachant. On l'avait vu arriver effectivement comme un ovni à l'époque. On savait pas d'où il venait, qui il était.
Absolument.
C'est un joueur assez hors norme. Donc, moi, je suis très content pour lui qu'il puisse continuer en Italie.
Ah, il a une trajectoire incroyable hein, quand on regarde ce qu'il a accompli toutes ces années depuis. Presque 20 ans maintenant.
Jusqu'à devenir une star au Bayern.
Ah oui,
c'est ça, faut se rendre compte ce que c'est.
Bien sûr. Mais c'est le meilleur joueur du monde à une époque. On peut dire ce qu'on veut.
Marc, le pauvre, il n'a pas été épargné. C'est par les blessures quand même ces derniers temps. On se souvient les derniers temps du côté du Bayern. Et même avec la viola, il a été aussi pas mal. Bon, il a fait 51 matchs en 2 ans. C'est pas mal. Mais en même temps, c'est vrai qu'il a été absent à certains moments importants.
Oui, mais il ne faut pas oublier aussi comment on arrive à se forger. Moi, à 14 ans et demi, je rentre au centre de formation et je prends un régime de vie qui est draconien. Peut-être que lui, à 14 ans, il n'est pas dans ce système-là et il va évoluer puisqu'il va sortir beaucoup plus tard, après 20 ans. Donc, il n'a pas suivi le cursus où viande blanche, poisson, purée, pas de gras, pas d'huile. Non, mais c'est très sérieux parce que ce genre de choses, c'est quand même important. Quand de 14 à 20 ans, vous êtes enfermé dans un centre et vous mangez du matin au soir, vous êtes réglé, vous savez que vous levez à telle heure, vous couchez à telle heure.
Ouais. Une horloge.
Et que lui est parti bosser des fois à 6h du matin, tu vas travailler.
Tu mets ton réveil comme ça dans les
après-midi. toujours, c'est important. Non, mais ça c'est le vieux réflexe de la sieste l'après-midi. Là, vous m'avez réveillé en fait. Je remets là. Vous m'avez réveillé.
Je n'osais pas te le dire.
C'est pour ça. Mais voilà, donc, et malheureusement, avec le temps, on peut rattraper des choses, il y a des choses qu'on ne peut pas rattraper, les blessures arrivent et c'est un petit peu dommage. Mais je suis persuadé que s'il est à 100%, il nous fera rêver. Et on regardera pour lui, de toute façon.
Bien sûr, il va rendre des services et c'est.
Ouais. Mais je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir à regarder justement ce qu'il va apporter à cette petite équipe qui remonte et c'est toujours intéressant les promus.
Ils ont mis la lumière sur en tout cas.
Comme Rigobert Song, il est passé par Metz. Et il va à la Salernitana.
C'est vrai.
C'est pas rien.
Quelque chose de beau.
Un petit clin d'œil.
Et Rigobert Song est allé à Galatasaray.
Également. Voilà, il y a beaucoup de points communs entre les deux hommes.
C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup,
merci
messieurs, d'y avoir contribué.
Merci à tous.
Et on vous donne rendez-vous demain, fidèlement. Merci à tous.
Demain sur RFI.